Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Le rendez-vous du jour donc à Marseille, déplacement surprise, sans images et sans journaliste. Emmanuel Macron a rencontré en catimini le très controversé professeur Raoult qui défend l'usage de la chloroquine.
Consultation à tout va pour le chef de l'État avant son intervention télévisée, finalement reportée après le week-end, lundi.
Où en est-on sur les nombreux essais justement lancés sur tous ces traitements potentiels? Et quand y verra-t-on plus clair? Le docteur Jimmy Mohamed sera là avec nous pour nous éclairer.
Rungis transformé en morgue, on vous le disait la semaine dernière, qui est sous le feu des critiques à cause de la facture envoyée aux familles endeuillées. Le gouvernement demande un contrôle.
Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles.
Dans ce journal aussi, la France qui double son plan d'urgence pour l'économie à 100 milliards d'euros pour contrer une récession attendue autour de 6% cette année.
Et la Suède va-t-elle regretter d'avoir refusé le confinement, l'épidémie qui prend de l'ampleur?
Et puis vous avez aimé il y a quelques jours le fameux question pour un balcon. Eh bien vous allez adorer question pour un frometon, l'initiative des fromagers.
Avoir un plaisir, un moment un peu hédonique autour du fromage, c'était le premier objectif. Et puis le deuxième, c'était aussi de soutenir les producteurs, puisque la filière, comme tout le monde, souffre.
Voilà l'initiative et le jeu des fromagers pour alerter sur leur situation économique. La Bourse de Paris en nouvelle hausse ce soir, plus 1,4%, juste au-dessus des 4500 points.
Bonsoir Anissa, le ciel de ce vendredi.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bien, demain on finit la semaine en beauté avec un temps encore plus beau qu'aujourd'hui et des températures qui continuent de grimper très haut demain. Je vous donne tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est le médecin qui fait débat depuis des semaines. Maintenant, le professeur Didier Raoult, convaincu que son traitement, l'hydroxychloroquine, est efficace contre le coronavirus. Le rendez-vous ne passe donc pas inaperçu. Il a eu les honneurs du président de la République aujourd'hui, Emmanuel Macron, venu le voir en personne à Marseille, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, ça fait plus de deux heures que le président est à l'IHU de Marseille aux côtés du professeur Raoult. L'Élysée banalise totalement le déplacement, explique qu'Emmanuel Macron fait le tour de tous les traitements, de toutes les études sur le virus. Hier encore, il échangeait avec le patron de l'OMS sur le sujet. Ce matin, il était à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre avec le professeur Delfrécy pour revenir sur l'étude Discovery de l'INSERM. Il est au contact des spécialistes, explique son entourage. Pour l'heure, pas de volonté de mettre en avant telle ou telle méthode. Le président, bien conscient que le professeur Raoult divise la communauté scientifique, autant que la classe politique et même l'opinion française. Alors avant de prendre des décisions, avant son intervention devant les Français lundi, il veut faire le tour de toutes les perspectives possibles. Cette visite ne vaut pas validation du traitement, m'a dit cet après-midi un membre du cabinet d'Emmanuel Macron.
Alors Emmanuel Macron qui consulte donc, nous le dit Jean-Rémy Baudeau, avant son intervention de lundi soir, on sait qu'il fait polémique. Est-ce qu'il prend, Jean-Rémy, un risque malgré tout à s'afficher avec lui?
Eh bien s'afficher, Nathalie, vous aurez noté qu'il n'y a pas d'image ni de la ni de ce matin de avec son. La rencontre avec le professeur Delfrécy, ni cet après-midi avec le professeur Raoult. Tous ces déplacements du président ont été réalisés loin des caméras, sans aucun journaliste. La question qui se pose est celle d'un éventuel risque politique pour le président. Est-il risqué de rendre visite à une des personnalités les plus controversées du moment, un traitement qui génère autant de fake news et de complots en tout genre? Eh bien dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on prend le sujet dans l'autre sens. Il y a surtout un risque à ne pas traiter le professeur Raoult, à l'ostraciser, me confie un conseiller. Le calcul de l'Élysée, c'est qu'il faut prendre au sérieux tous les traitements, tant que la recherche ne permet pas d'avoir un avis précis. On n'est pas dans le pour ou le contre, explique un conseiller, qui refuse d'y voir donc un soutien politique. Et c'est une ligne qu'on retrouve au sein de l'exécutif. J'en parlais cet après-midi avec un ministre qui me confiait « Si les médecins sont partagés sur la chloroquine, ça n'est pas à nous, politiques, de donner notre avis. Ce serait très dangereux. »
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et lundi, on suivra bien sûr l'intervention en direct à 20h d'Emmanuel Macron, édition spéciale sur Europe 1. L'Élysée qui a déjà précisé que le confinement serait prolongé. Ce n'est pas une surprise au-delà du 15 avril.
Et on va y revenir avec Michaël Darmon. Que peut dire le président lundi? Les grandes voix, donc c'est à 18h30. Et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, sera mon invité politique à 19h10.
Et le docteur Jimmy Mohamed est avec nous comme chaque soir. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Emmanuel Macron, donc, qui fait la tournée des chercheurs. Il y a les essais du professeur Raoult à Marseille, il y a ce grand essai européen sur la chloroquine et sur d'autres traitements aussi. Il y en a d'autres un peu partout en France, ça fait beaucoup, on s'y perd. Est-ce qu'on sait quand on y verra un peu plus clair sur ces différents traitements potentiels?
Alors c'est vrai qu'on vit une période assez extraordinaire et que les essais se multiplient très rapidement. Habituellement, il faut plusieurs mois avant d'avoir une autorisation. Désormais, en quelques heures, quelques jours, on peut faire des études à grande échelle et partout dans le monde. Alors il y a évidemment de nombreuses pistes, mais la piste probablement la plus prometteuse est celle de la lutte contre l'inflammation du tissu pulmonaire qui est causée par une libération explosive et incontrôlée de molécules pro-inflammatoires pour laquelle il n'existe aucun traitement à ce jour, qu'on appelle les cytokines. Alors on a des traitements notamment pour la transfusion chez des malades qui ont guéri du coronavirus. Ceux-là, les résultats, on les aura dans quelques semaines. On a l'essai Discovery. On traite avec des antiviraux des malades. Ça aussi, d'ici une semaine, on devrait avoir des résultats intermédiaires. Le professeur Raoult nous explique que d'ici quelques jours, il aura aussi des résultats intermédiaires. Bref, il faut patienter. De nombreuses pistes sont à l'essai. On a aussi entendu parler du BCG, qui pourrait être aussi une piste. Donc, il faut un petit peu de patience. Et puis, il y aura les vaccins. Mais ça, c'est dans un second temps, un deuxième, voire troisième temps, d'ici quelques mois, voire peut-être un an ou deux. Donc, un peu de patience, même si on sait que c'est difficile. Pour l'instant, la seule urgence, c'est le confinement.
Voilà, c'est dit.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Le confinement, effectivement, on en est au 24e jour aujourd'hui. À demain, bien sûr, avec vous, 15h, sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Et puis à 18h également, vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Et juste après ce journal, je reçois cette fois le professeur Lantieri. Alors, cette fois, avec une autre méthode, il défendait en fait un essai sur un potentiel traitement issu des vers marins qui contiennent beaucoup d'oxygène. Et c'est qui a été stoppé là, juste avant d'ailleurs d'être mis en œuvre samedi. Ça aurait dû être samedi. Il nous dira pourquoi cet arrêt en urgence.
On vous le disait, depuis quelques jours, plusieurs communes ont annoncé leur intention de rendre obligatoire le port d'un masque, même artisanal, pour toute sortie. Certains maires ont même déjà pris des arrêtés. Et bien, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande au préfet de faire retirer ces obligations qui ne sont pas jugées cohérentes, dit-il, avec le confinement. On va y revenir à 19h parce qu'on n'y comprend vraiment plus rien.
Voilà, et puis les grandes voix essaieront aussi de nous éclairer. Il y a ce soir cette polémique maintenant autour de la morgue installée provisoirement dans un hangar du marché de Rungis. On l'apprenait la semaine dernière. Rungis, c'est évidemment ce grand marché tout près de Paris.
Hein. Oui, et polémique sur la facture adressée aux familles endeuillées qui doivent payer même pour venir se recueillir. 55 euros pour une heure. C'est un opérateur privé, OGF, qui gère le site. Élise Dangean, le gouvernement demande un contrôle.
Oui, à la découverte de ces tarifications, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé un examen approfondi et n'a pas hésité à exprimer son désaccord.
Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles.
Sentiment partagé par Philippe Martineau, directeur général du réseau Le Choix Funéraire. Il appelle au pragmatisme et au respect de la loi.
Il y a un décret qui dit que la présentation d'un corps aux familles d'une personne décédée dans un établissement de soins public ou privé doit être présentée gratuitement à la famille pendant 72 heures. Moi, je pense aujourd'hui que le réseau qui a été délégataire de cette prestation se doit d'appliquer le texte et charge après aux collectivités de rémunérer ce prestataire.
Mais l'opérateur OGF se défend de cet argument, indiquant que cette morgue provisoire installée à Rungis devait être comparée à un funérarium où les prix sont les mêmes. Par ailleurs, le groupe rappelle la nécessité de rémunérer son personnel sur place. Au total, une trentaine de personnes.
Les précisions d'Élise Dangean pour Europe 1.
Il est 18h08 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les chiffres donnent littéralement le tournis. Hein. L'impact du coronavirus sur l'économie semble chaque jour de plus en plus important. Désormais, ce sont 7 millions de salariés qui sont au chômage partiel, un tiers des personnels dans le privé.
Et la facture s'alourdit donc. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce avec Gérald Darmanin que face à la très forte récession qui est attendue cette année, le montant du plan d'urgence de l'État va être doublé, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, l'année 2020 restera tristement dans les annales. Le coronavirus va laminer, il n'y a pas d'autre mot, l'économie française. Bercy table sur un recul de notre PIB, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en un an, de 6%. À titre de comparaison, c'est deux fois plus que l'impact de la crise de 2008. Il s'agit, selon le ministre de l'économie, de la plus grande récession depuis 1945. Alors pour en limiter l'impact, le plan de soutien à l'économie est dopé. Il passe de 45 à 100 milliards d'euros. Le fonds de solidarité pour aider les petites entreprises est revu à la hausse. Et puis, tout ça aussi, c'est le résultat de certaines mesures dont le coût s'envole, comme par exemple le chômage partiel. Initialement, le gouvernement avait tablé sur moins de 9 milliards d'euros. Maintenant, il parle de 20 milliards d'euros. Il faut dire que quasiment un salarié sur trois est aujourd'hui au chômage partiel. Alors pour financer tout cela, le déficit et la dette vont s'envoler. Notre dette va atteindre 112% du PIB. Il faut dire que Bruno Le Maire le dit très clairement. Le redressement économique sera long, difficile et coûteux. Il demandera des efforts de la part de tous les Français.
Emmanuel Dutheil du service économie d'Europe 1 et le ministre de l'économie Bruno Le Maire sera demain matin sur Europe 1, 8h15, invité de Sonia Mabrouk et Mathieu Béliard.
Et les Européens qui reprennent ce soir leurs négociations et vont à nouveau tenter de s'entendre sur un plan de relance.
Oui, en Allemagne, ce chiffre spectaculaire là aussi, la Lufthansa perd à chaque heure qui passe, la Lufthansa perd 1 million d'euros, c'est colossal. Le plus gros groupe européen du secteur aérien annonce qu'il ne s'en sortira pas sans un soutien de l'État. Et puis aux États-Unis, là aussi un chiffre catastrophe, 6,5 millions de nouveaux chômeurs en une semaine la semaine dernière et qui s'ajoute aux 10 millions déjà enregistrés sur la deuxième quinzaine de mars.
Et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe en Suède. Parce que jusqu'ici, eh bien, c'était le contre-exemple, hein, le pays qui refusait le confinement.
Pour vous dire, là-bas, les restos et les terrasses sont toujours ouvertes. Ça paraît complètement incongru. Et on voit les Suédois profiter tranquillement du soleil sans contrainte. Le pays se disait épargné. Sauf que Justin Morin, les chiffres sont en train de changer. L'épidémie est-elle en train de rattraper ce pays ?
Oui, c'est en tout cas ce que semblent montrer les chiffres. Le nombre de décès a presque triplé en une semaine. Près de 700 personnes sont mortes à cause du coronavirus. Et ce qui alerte les Suédois, c'est la comparaison avec les pays scandinaves voisins. Rapporté au nombre d'habitants, la Finlande, le Danemark ou la Norvège s'en sortent beaucoup mieux. La Norvège, par exemple, où après 93 décès, le gouvernement a annoncé que l'épidémie était sous contrôle. En fait, le gouvernement suédois de centre-gauche a choisi une autre stratégie pour lutter contre le virus, celle de la confiance envers la population. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun. Dans les faits, seuls les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, ainsi que les visites dans les maisons de retraite. Sinon, les bars sont ouverts, les écoles et les collèges aussi. Le télétravail est seulement encouragé et les voyages déconseillés. On est donc très loin des mesures drastiques prises dans le reste de l'Europe. On se souvient qu'au début de l'épidémie, la Grande-Bretagne avait choisi une stratégie similaire, avant de vite durcir le confinement, par peur de voir la situation leur échapper.
Justin Morin pour Europe 1 et à travers le monde. Les célébrations de Pâques débutent sans fidèles, évidemment. Le pape François célèbre ce soir une première messe. Et à Paris, l'archevêque Michel Aupetit a béni la capitale depuis la basilique du Sacré-Cœur.
Ouais. Allez, on va se détendre un petit peu. On va même jouer, Sébastien. Vous vous souvenez de questions pour un balcon? On en parlait la semaine dernière. On joue à la fenêtre. Bon, alors pas du tout hein, dans mon arrondissement, malheureusement. Nouvelle initiative. Là, on parle de fromage.
Oui, voici question pour un Fromton. Initiative lancée par des fromagers, évidemment. Ça commence ce soir. Alors, c'est un jeu, là aussi, sur les réseaux sociaux. Pierre Herbulot, mais avec une idée de fond, parce que pour ces artisans, il s'agit d'alerter sur leur situation économique difficile.
Oui, moins 60% de commandes pour les AOP, encore plus pour les fromages fermiers. Si c'est le cœur du sujet, l'idée ce soir n'est pas de faire un cours magistral sur le marché des produits laitiers. Question pour un Fromton, c'est une dégustation de fromage par internet, de manière ludique, avec des questions façon « je suis Julien Lepers ». Pour participer, c'est trop tard, hein, mais l'émission est diffusée en live sur Facebook, ça commence à 19h. Derrière le jeu, deux objectifs, raconte le co-animateur de la soirée, François Robin, fromager, meilleur ouvrier de France.
C'était d'apporter un petit peu de fun à cette période, avoir un plaisir, un moment un peu hédonique autour du fromage, c'était le premier objectif. Et puis le deuxième, c'était aussi de soutenir les producteurs, puisque la filière, comme tout le monde, hein, souffre, notamment les fromages qui sont d'affinage moyen, c'est-à-dire par exemple les types camembert, les Saint-Nectaire, les Brie, les fromages de chèvre.
Cinq fromages particulièrement touchés depuis le début du confinement seront mis en avant ce soir, comme le Bria Savarin. Je discutais tout à l'heure avec le producteur de la ferme de Juchy en Seine-et-Marne. Les commandes ont été divisées par 10 et le fromage supporte mal l'affinage. Ça veut dire beaucoup de pertes dans les semaines à venir. Le message ce soir, c'est donc acheter du fromage, oui, mais pas n'importe lequel. Il faut privilégier les pâtes molles, le mieux étant encore de demander conseil à son fromager quand on a la chance d'en avoir un.
Voilà, Pierre Herbulot.
Parfait, lorsque l'heure de l'apéro a sonné.
Ben oui, c'est ça. Et on va chez son fromager parce qu'ils ont besoin d'aide en ce moment. Et puis eux sont partis dans l'espace en plein confinement. Voilà une manière de s'échapper. Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé comme prévu ce matin à 10h vers la station spatiale internationale. À cause de la pandémie, les adieux à leur famille ont dû se faire par visioconférence. C'est dur.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. De nouvelles infos avec vous à 18h30. Du côté du temps, Anissa, une journée très ensoleillée, des températures douces.
Oui, encore demain, on remet ça. Hein, c'est Ça sera une très belle journée demain, Nathalie. Plus que printanière, c'est même une journée aux allures d'été qui nous attend demain matin. Alors, il y aura quelques nuages sur le Languedoc-Roussillon, avec des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Sur le reste du pays, le ciel est complètement dégagé en début de journée. Et puis, dans l'après-midi, sur les Pyrénées, le ciel va se couvrir avec même sur les reliefs des petites averses et quelques coups de tonnerre. Mais ça, c'est uniquement sur les reliefs des Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel est complètement dégagé avec un soleil qui brille tout au long de la journée. Alors côté température, bah c'est très agréable, hein. 4 à 11 degrés demain matin, jusqu'à 13 même, hein, au Havre et au bord de l'Atlantique. Et puis dans l'après-midi, ça grimpe encore avec 18 à 24 degrés en moyenne de la Manche à la Méditerranée. Alors 18 à Cherbourg, 20 pour Bastia, 21 à Marseille. Les températures les plus fraîches sont celles en bord de mer. Et puis ailleurs, bah écoutez bien, ça grimpe encore demain avec 25 degrés à Dijon, Toulouse et Bordeaux, 26 à Nantes et Lyon, 27 degrés à Rennes, Blois et Paris, et 28 la maximale pour Auxerre demain après-midi.